une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, si vous êtes des auditeurs assidus de RFI, et je sais que c'est le cas, je suis sûr que vous connaissez notre invité. Il s'agit de notre confrère Jean-Pierre Boris, spécialiste de l'économie et des matières premières. Il vient d'ailleurs d'écrire « Trader, vrai maître du monde, enquête sur le marché des matières premières », un livre édité chez Talendier. Nous allons donc ensemble parcourir 7 jours d'actualité sur la planète avec les correspondants et les envoyés spéciaux de RFI. Une semaine d'actualité, une émission que vous pouvez podcaster sur notre site rfi.fr.
Sept jours dans le monde.
Et commençons tout de suite cette émission avec une question. Dans quelle ville fait-il bon vivre en Afrique? L'école polytechnique de Lausanne et le magazine Afrique Méditerranée Business y ont répondu, Charlotte Hydrac.
Et la gagnante est Marrakech au Maroc, suivie de Johannesburg en Afrique du Sud, Alexandrie en Égypte et Port-Louis à Maurice. Pour établir ce classement, les auteurs de l'étude ont établi 7 catégories. Société, habitat, développement spatial, infrastructure, environnement, gouvernance et économie. En tête, les villes qui ont investi dans les logements, les transports ou encore les réseaux d'eau et d'électricité. Et la combinaison des indicateurs peut donner des résultats surprenants. Exemple, Kigali, plébiscité pour sa propreté, mais ça ne suffit pas, notamment à cause de sa gestion de l'habitat. La capitale du Rwanda se retrouve à la 54e place seulement. Dakar, au Sénégal, fait bonne figure, à la 23e place, mais devrait grimper, selon les chercheurs, grâce au volontarisme du maire de la ville. Dans le top 30 aussi, Libreville, au Gabon, 20e, et Yaoundé, au Cameroun, 30e. Selon l'étude, la taille d'une ville n'est pas liée à sa place dans le classement. Il n'y a pas non plus de rapport avec le système politique du pays, mais en queue de palmarès, on trouve des capitales déstabilisées par des crises ou des conflits comme Kinshasa ou Bangui.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
Merci d'être à ce micro, ça vous fait drôle d'être de l'autre côté du micro justement.
Très drôle, très drôle, très drôle.
Alors je rappelle que vous êtes le présentateur du magazine Éco d'ici, Éco d'ailleurs, on vous entendra d'ailleurs dans 2 heures quasiment, ouais. Aujourd'hui, chaque samedi. Et dans quelle ville africaine d'ailleurs vous aimeriez vivre?
La liste que dressait Charlotte. J'ai été un peu surpris par la liste que donnait Charlotte, enfin que les gens de l'école polytechnique de Lausanne. Je m'attendais pas à trouver Johannesburg en si bonne place, même si c'est une ville riche et dans un pays riche malgré les inégalités sociales, parce qu'on parle beaucoup de la violence en Afrique du Sud, de la délinquance, de la pauvreté, etc. Donc, Johannesburg, dans certains quartiers, certainement, mais peut-être pas dans toute la ville. Moi, si on me demandait où voudriez-vous vivre, en Afrique, je choisirais des pays au fort développement, démocratique. Et je dirais 2 villes comme ça qui me viennent à l'esprit, Abidjan et puis Nairobi au Kenya.
Ben écoutez, chacun ses goûts. Alors, vous êtes spécialiste d'économie, des matières premières. Ce livre que j'ai sous les yeux, Trader, vrai maître du monde, enquête sur le marché des matières premières, est un nouveau livre. Vous en avez déjà écrit sur le sujet, Commerce inéquitable, le roman noir des matières premières chez Fayard en 2005, ou bien encore Main basse sur le riz. Vous avez aussi réalisé des documentaires. Des documentaires pour la télévision, pour Arte, il me
semble. Pour Arte, deux films. Main basse sur le riz, donc en 2010, avec Jean Crépu, le réalisateur. Puis toujours avec Jean Crépu, un film sur le marché du cacao qui s'appelait Le dernier carré de chocolat. Et puis toujours avec Jean Crépu, un troisième film qui est consacré aux traders de matières premières, qui est sur Arte. C'était en 2014. Et puis donc ce livre est tiré en quelque sorte de l'enquête faite à l'occasion du tournage de ce film sur les traders de matières premières.
On va parler de ces traders et de cet univers. Ce qui est assez fascinant, c'est que vous avez réussi à avoir des informations, à faire tout ce travail, donc depuis des années, dans un monde qui est assez opaque, secret.
Oui, C'est un monde qui est très secret, depuis toujours d'ailleurs, parce que les traders, ce qu'on appelle aujourd'hui les traders, parce qu'on vit dans...
Qu'on peut appeler aussi négociants.
Voilà, hein, ou marchands.
Ou marchands.
C'était les premiers grands marchands à l'époque de Venise, de la Grande Venise, au 15e siècle, dans les pays du nord de l'Europe. C'était sur la place des marchés les gens qui faisaient circuler la marchandise, les céréales d'abord, mm-hmm, hein. Et ce sont toujours les mêmes gens qui, enfin, leurs descendants, qui nous approvisionnent en métaux, en denrées tropicales, en céréales, en pétrole, en gaz, et qui ont toujours cette volonté de rester secret. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que il y a une concurrence effrénée entre eux. Et que, à l'époque que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire la marine à voile, avoir une information de l'autre bout de la planète avant le concurrent, ça valait de l'or. Et aujourd'hui, où les marges sont infimes, avoir des informations sur ce que fait le concurrent, c'est aussi un avantage.
Une information qui circule plus vite, d'ailleurs, qui va
circule
plus vite,
beaucoup plus, oui, vite grâce à Internet, grâce aux nouveaux moyens de communication. Et puis, il y a un autre facteur qui facilite ce secret, c'est que les gens dont on parle dans ce livre, ni vous ni moi n'avons vocation à les connaître. Nous sommes des consommateurs, des citoyens, mais jamais nous n'entendons parler d'eux, parce que ce sont des gens qui achètent à des producteurs à un bout de la planète et vendent à des transformateurs à l'autre bout. Mais ils n'ont jamais affaire au grand public. Ce ne sont pas des marques comme Nestlé, comme Coca-Cola. Ce sont des gens qui sont dans l'obscurité totale et qui souhaitent y rester.
Et qui souhaitent, oui, effectivement, y rester. Alors, on va continuer notre voyage, Jean-Pierre Boris, et partir pour l'Irak, pour Mossoul, précisément. Les forces d'élite irakiennes sont entrées hier dans la partie occidentale de Mossoul. Pour la première fois depuis la prise de la deuxième ville d'Irak par le groupe État islamique en 2014, c'est la reprise totale de l'aéroport désaffecté jeudi qui leur a permis d'enfoncer les lignes djihadistes. Correspondance d'Erbil dans le Kurdistan irakien, c'est-à-dire dans le nord du pays, signé Oriane Verdier.
C'est un premier objectif que les forces irakiennes ont atteint aujourd'hui en prenant le contrôle de l'aéroport de Mossoul au sud de la ville. Ils sont actuellement au combat dans la base militaire de Khazlani. Au cours de leur avancée, les forces irakiennes ont saisi de nombreuses armes de l'organisation État islamique. Une dizaine de voitures suicides ont également été neutralisées. L'aéroport et la base de Khazlani sont deux zones à la grande importance stratégique. C'est la plus grande base du nord de l'Irak. Depuis Khazlani, les forces pourront ensuite avancer dans la zone urbaine, la rive ouest de Mossoul, où plus de 700 000 civils sont toujours prisonniers de l'organisation État islamique. Pour l'heure, ces familles ne peuvent pas sortir sans être la cible du groupe terroriste. Des bateaux gonflables ont été prévus pour leur permettre de rejoindre la zone est de Mossoul libérée en traversant le Tigre. Mais ce voyage est encore impossible sans risquer de mourir sous les tirs de l'organisation État islamique.
À suivre évidemment dans nos journaux. Partons maintenant pour l'Équateur, Jean-Pierre Boris. Après le premier tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier, l'élection se jouera au second tour entre le socialiste Lénine Moreno et l'ex-banquier de droite Guillermo Lasso Akito, Éric Sanson.
Le président du Conseil national électoral n'a pas attendu que tous les suffrages soient dépouillés. Dans un pays où l'attente a multiplié les soupçons de fraude, Juan Pablo Pozzo a donné mercredi soir les résultats du premier tour de la présidentielle.
Aujourd'hui, 22 février 2017, après le dépouillement de 99,5% des suffrages, je peux confirmer que le dimanche 2 avril prochain aura lieu le second tour de l'élection présidentielle.
Mercredi matin, lors d'un entretien avec la presse étrangère, le président Rafael Correa a présenté son parti comme le grand vainqueur des législatives, ayant raté de peu une victoire au premier tour de la présidentielle.
Il ne nous a manqué que 0,5% pour éviter le deuxième tour électoral. Bien, nous irons au deuxième tour et nous vaincrons encore le 2 avril prochain. Il n'est pas impossible que l'opposition gagne. Ce sont les Équatoriens qui décideront, mais toutes les enquêtes disent que nous gagnerons ce deuxième tour.
Le candidat officiel, Lénine Moreno, n'a pas attendu l'annonce des résultats pour rechercher des alliances électorales et attaquer l'opposition.
Nous ne retournerons pas au passé. Ils le savent et sont désespérés. La violence est la réponse de ceux qui ont tort. Ils savent qu'au second tour, nous allons encore leur mettre une raclée.
À coup sûr, la campagne du deuxième tour ne manquera pas d'ambiance.
ambiance, effectivement, Jean-Pierre Boris. Dans un pays que vous connaissez bien, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Fuir l'Équateur, une histoire de clandestins ». C'était chez Fayard en 2007. Que pensez-vous de cette élection?
Ce qui me frappe d'abord, c'est le prénom d'un des deux candidats, Lénine. Je ne pense pas qu'on trouve ça partout.
Et il est socialiste en plus.
Il y a une espèce de prédestination là, de la part de ses parents. Et puis, je pense qu'on verra le résultat. Ce qui attire surtout mon attention, c'est que c'est quand même le départ d'un personnage emblématique de l'histoire politique latino-américaine de ces 15 dernières années, Rafael Correa.
Oui, le président sortant.
Le président équatorien sortant, qui aura marqué l'histoire de son pays et puis du continent, à la fois par son charisme, mais aussi par sa politique nationaliste, par ses tentatives pour essayer de faire échapper l'Équateur à son destin de pays seulement producteur de pétrole, de pays fournisseur de migrants à l'Espagne, aux États-Unis. Et ça a été une semi-réussite. Donc, je pense que c'est un homme qui restera, malgré tout, dans l'histoire continentale, au même titre que d'autres chefs d'État de la région, comme Evo Morales, en Bolivie.
Alors, l'Amérique latine, une terre de matières premières?
Oui, une terre de matières premières, il y en a beaucoup. D'ailleurs, si je me suis intéressé aux matières premières, si je peux faire une petite parenthèse personnelle, c'est parce que dans mes jeunes années, j'avais beaucoup sillonné l'Amérique latine, j'avais été dans des champs de canne à sucre au Pérou, dans les mines d'étain en Bolivie, j'avais vu des mines de cuivre au Chili.
Quelle vie, Jean-Pierre !
Voilà, c'était passionnant. Et tout d'un coup, bien des années plus tard, je me suis dit que j'étais passé à côté de quelque chose. C'était ces cannes à sucre, ces minerais, comment est-ce qu'ils circulent, qu'est-ce qu'on en fait, qui les vend, qui les achète. Et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser au marché de matières premières. Donc oui, l'Amérique latine, j'en ai cité quelques-unes de ces matières premières. Il y a aussi le pétrole, il y a l'or, il y a de l'argent. Enfin, je vais pas faire une liste interminable, ça embêterait trop les auditeurs.
Une semaine d'actualité.
Nous allons continuer à parler des matières premières et des traders, en particulier Jean-Pierre Boris. Mais partons maintenant en Malaisie. La Malaisie qui a demandé à Interpol de lancer une alerte qui vise 4 suspects nord-coréens dans le cadre de l'assassinat de Kim Jong-nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. La Malaisie accusée du meurtre par la Corée du Nord, Juliette Gerbrandt a fait un point jeudi.
Selon le chef de la police malaisienne, le deuxième secrétaire de l'ambassade de Corée du Nord à Kuala Lumpur et l'employé de la compagnie aérienne Air Kyoro se trouvent toujours sur le territoire malaisien. Parmi les 5 autres Nord-Coréens qui figurent déjà sur la liste des suspects, 4 sont retournés à Pyongyang, affirment les autorités malaisiennes. Le 5e est en détention provisoire, tout comme les 2 femmes, une vietnamienne et une indonésienne, qui ont attaqué Kim Jong-nam avec un produit toxique à l'aéroport de Kuala Lumpur le 13 février dernier. Autre annonce de la police, plusieurs personnes ont tenté en début de semaine de s'introduire dans la morgue où repose le corps de Kim Jong-nam, mais leur identité connue des enquêteurs n'a pas été révélée. Pyongyang a réclamé le corps et rejeté par avance les conclusions de toute autopsie faite en l'absence de ses représentants. Mais de son côté, la Malaisie demande un échantillon ADN d'un parent proche pour confirmer l'identité du défunt avant de rendre le corps. Ridicule, estime Pyongyang. Ces derniers éléments ne vont pas améliorer les relations entre les deux pays qui se sont fortement dégradées depuis l'assassinat, alors que la Malaisie est l'un des très rares pays à avoir des liens officiels avec la Corée du Nord.
Il nous faut passer par la Turquie maintenant, Jean-Pierre Boris, avec un symbole. Les femmes pourront porter le foulard islamique dans l'armée, désormais. Istanbul, Alexandre Billat.
Après les universités, la fonction publique, le parlement, les tribunaux, c'est maintenant l'armée qui permet aux femmes de porter le voile. Une décision historique, titre la presse turque ce midi, puisque c'est le dernier pilier du kémalisme laïque qui autorise aujourd'hui le port du foulard islamique. La mesure est comprise dans le nouveau règlement sur les uniformes qui sera validé par publication au journal officiel. Elle concerne les officiers, les sous-officiers, mais aussi les étudiantes des écoles militaires. Et le foulard devra être aux couleurs des uniformes et porté sous le casque ou le chapeau réglementaire, précise le texte. Le port du voile dans les institutions publiques est le combat des forces politiques islamistes depuis des décennies en Turquie. Au pouvoir depuis 2002, l'AKP a levé une à une les interdictions concernant le foulard. Et la décision d'aujourd'hui est la plus symbolique, symbolique aussi de la mise au pas de l'armée turque après le putsch raté du 15 juillet dernier.
Une semaine d'actualité continue en compagnie de Jean-Pierre Boris, auteur de Traders, vrai maître du monde, enquête sur le marché des matières premières. Dites-moi, cette affaire de meurtre du demi-frère du leader nord-coréen, c'est une histoire à la John le Carré. Alors je précise qu'il aurait été tué par un agent neurotoxique extrêmement puissant, le VX. Et vous me disiez, Jean-Pierre, tout se rapporte aux matières premières, que ça vous faisait penser aux matières premières.
Oui, bien sûr, l'agent neurotoxique, il est issu soit d'un produit chimique, soit de matière première. Non, mais c'est la Malaisie qui me faisait... Et puis la Corée du Nord qui me font penser matière première. La Corée du Nord, parce que dans l'actualité immédiate, là, ces jours-ci, on a appris que la Chine, qui avait cessé d'importer du charbon de Corée du Nord, avait réduit ses échanges de 28% en quelques semaines. Donc c'est vraiment très important, c'est une mesure politique. Et puis la Malaisie, quand on s'intéresse aux matières premières et à l'Afrique, et qu'on se demande comment l'Afrique peut-elle faire pour se développer grâce à ces matières premières, eh bien on cite toujours l'exemple de la Malaisie qui, dans les années 50-60, grâce à ses ressources en EVA, en caoutchouc, et en imposant des barrières douanières, un espèce de protectionnisme, a réussi à protéger son marché et a créé une industrie du caoutchouc qui a été un des éléments de base de son développement et qui a fait de la Malaisie un de ces dragons asiatiques dont on a parlé par la suite et qui a contribué à son succès économique.
Alors revenons à ces traders, ces négociants des matières premières. L'un d'entre eux vous dit, Jean-Pierre Boris, dans le livre, vous l'avez écrit, à propos de ces traders négociants, dans la plupart des cas, j'ai eu affaire à des gens profondément immatures, essentiellement attirés par les grosses bagnoles et les filles qu'on peut asseoir dedans. Leur immaturité politique et économique est absolue.
Oui, alors, ce sont des propos anonymes dans ce livre, parce que leur auteur n'a pas souhaité être cité, ou plutôt a souhaité ne pas être cité. Enfin, disons que c'est un courtier genevois qui lui-même a dans son garage quelques belles voitures de luxe, rapides, très rapides, et qui prend un petit plaisir à dégommer ses partenaires de jeu. Ce discours-là, on l'entendait beaucoup dans les années 90, des traders, et puis sont venues les diverses crises, et on disait beaucoup après, c'est ces traders qui défilent dans les rues des grandes villes avec leur voiture de sport décapotable pour draguer les filles, ça n'a plus cours parce que on est devenu plus sage. Et puis finalement, il y a eu la nouvelle phase de hausse des cours des matières premières, la bulle des matières premières, et c'est un peu revenu, c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'argent qui s'est fait grâce à l'attrait des matières premières par la Chine, aux énormes besoins en matières premières de la Chine. Les cours des matières premières se sont envolés et ça a fait beaucoup d'argent qui s'est mis à circuler.
Ce qui fait la richesse de ces négociants, c'est quoi? C'est un pourcentage qu'ils prennent sur ces matières premières?
C'est pas un pourcentage, c'est une marge. C'est-à-dire, ce sont des gens dont le métier est d'anticiper. Alors, ils spéculent au sens... je dirais intellectuel du terme d'abord, en disant je pense que dans 8 mois, la demande mondiale de cacao va exploser et qu'au contraire les récoltes seront mauvaises. Donc le prix va augmenter, donc comme il y a des stocks disponibles en ce moment, je les achète, j'en prends livraison et je les vendrai à qui en aura besoin au prix que je pourrais imposer sur la base du prix mondial dans X mois. Donc c'est un travail de prévision qui peut être générateur d'énormes bénéfices, mais si on se trompe, qui peut être aussi générateur d'énormes pertes.
Ça marche pas à tous les coups.
Ça marche pas à tous les coups.
Jean-Pierre Boris, on va faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde, et on se retrouve dans 3 minutes pour continuer à parler de l'actualité de la semaine en France et en Afrique, et de ces fameux négociants maîtres du monde. À tout de suite.
À tout de suite.
Merci pour toutes ces informations. Retour maintenant à notre voyage au cœur de 7 jours d'actualité, avec bien sûr les reportages de la rédaction et notre invité cette semaine, Jean-Pierre Boris, auteur de Traders, vrai maître du monde, enquête sur le marché des matières premières, un livre édité chez Talendier.
Une semaine d'actualité.
Parlons de l'essentiel de l'actualité française avant de partir pour l'Afrique, Jean-Pierre, et comme ces dernières semaines, un chapitre politique copieux avant l'élection présidentielle dans 2 mois, avec d'abord le nouvel allié d'Emmanuel Macron, François Bayrou. Le président du Modem a annoncé mercredi qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle et qu'il allait soutenir l'ancien ministre de l'économie, Anthony Lattier.
L'extrême droite est aux portes du pouvoir, ma candidature aggraverait les périls qui menacent le pays, se justifie François Bayrou.
Ma proposition, elle vise au contraire à montrer qu'il existe des responsables politiques pour qui ce n'est pas l'intérêt qui compte, mais c'est la gravité de la situation que nous avons à vivre.
Mais face à son faible niveau dans les sondages et face au rouleau compresseur Macron, François Bayrou a aussi fait un choix de raison, s'allier au leader d'En Marche plutôt que de jouer les figurants et ne pas prendre le risque de rater la barre des 5% des voix nécessaires pour se faire rembourser ses frais de campagne. Car il faut rappeler que François Bayrou n'a pas été tendre jusqu'ici avec Emmanuel Macron, qualifié de candidat des forces de l'argent en septembre. Alors quand on le lui rappelle, Marielle de Sarnez, vice-présidente du Modem, botte en touche.
Il a même dit le premier point de nos exigences, c'est d'avoir enfin une moralisation de la vie publique et des garanties au fond institutionnelles qu'il n'y aura pas de mélange entre la politique et l'argent.
Les conditions posées par François Bayrou ont immédiatement été acceptées par Emmanuel Macron, qui est rejoint pour la première fois par une personnalité de premier plan de la vie politique française.
Autre ralliement, celui de l'écologiste Yannick Jadot, qui a choisi jeudi cette fois de soutenir le candidat socialiste Benoît Hamon, que nous écoutons alors qu'il était en campagne dans le Pas-de-Calais ce jour-là.
C'est une grande fierté, ça n'est pas un acte anodin. Depuis 1974, l'écologie politique a un candidat à l'élection présidentielle. Cette fois-ci, en raison non pas d'un petit arrangement, mais en raison de la convergence de la culture qui est celle des socialistes, mais d'une autre culture qui est celle de l'écologie politique. Ces deux cultures aujourd'hui convergent, préparent les grandes conquêtes sociales et écologiques de demain et me donnent l'immense honneur, l'immense chance d'être le représentant, celui qui représentera la convergence de ces deux cultures. Merci à Yannick, merci à tous ces écologistes aujourd'hui qui me font confiance. Je mettrai toute mon énergie pour être à la hauteur de ce rassemblement qui se construit dans cette terre de gauche qui a si souvent accueilli François Mitterrand. L'unité est un talisman qu'il nous a laissé en héritage. C'est un talisman qu'il faut choyer, chérir. Et je mettrai tout en œuvre pour que demain, face à l'extrême droite, face à la droite dure et totale, nous puissions incarner l'unité de la gauche et que j'en sois évidemment le représentant.
Suite de l'élection présidentielle, dans cette émission, Marine Le Pen était à Beyrouth au début de la semaine. Elle a été reçue par le président du Liban, Michel Aoun, dans la capitale libanaise mardi, Laure Stéphane.
Une poignée de main, un entretien sur la forme, c'est un succès. Marine Le Pen a réussi au Liban ce qu'elle n'avait jamais pu accomplir jusqu'alors, être reçue par un chef d'État étranger, le président Michel Aoun. Mais dans l'entourage de divers responsables qu'elle a rencontrés, on minimise. Il ne s'agit aucunement d'un soutien. La dirigeante d'extrême droite est accueillie au même titre que d'autres candidats à la présidentielle française. À Beyrouth hier, Marine Le Pen a parlé de fondamentalisme islamiste, du conflit syrien. Elle s'est aussi brièvement exprimée sur le sort des chrétiens. D'Orient.
Le meilleur moyen de protéger les chrétiens, c'est d'éradiquer le fondamentalisme islamiste. C'est ce à quoi je me suis engagé en France. Pour moi, la protection des chrétiens, ça consiste à faire en sorte que les chrétiens puissent rester sur leur terre.
Cette défense autoproclamée des chrétiens d'Orient parle dans les rangs de la droite chrétienne où le Front National dispose de connexions anciennes, mais elle est loin de faire l'unanimité au sein de la communauté. Et puis sur un autre thème, preuve que sa stratégie de normalisation ne convainc pas vraiment ici, Marine Le Pen s'est vue mise en garde par le Premier ministre Saad Hariri contre tout amalgame entre islam et terrorisme.
Et parlons maintenant du candidat de la droite et du centre, François Fillon, candidat de la rigueur budgétaire lors de la primaire de novembre dernier. L'ancien Premier ministre change de cap désormais à quelques semaines du scrutin et dans le contexte que l'on sait en matière de santé, notamment Julien Chavannes.
François Fillon a beau avoir réduit la dose, son traitement fait encore tousser ses rivaux. En proposant de rembourser totalement les soins optiques et les prothèses dentaires, il se retrouve accusé de plagiat par Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche.
Parfois on dit que vous n'avez pas de programme, mais on peut le recopier. Ce qui est...
Benoît Hamon lui fait mine de s'étonner du revirement de son adversaire converti à une méthode plus douce.
Je salue le changement de pied, il est remarquable. Il y a eu, je ne sais pas si la grâce l'a touché en quelques jours, mais...
Mais le candidat socialiste s'interroge sur le financement de ce projet. Pour l'instant, l'équipe de François Fillon n'a fourni aucun chiffrage des dépenses prévues, seulement les 20 milliards d'euros d'économies espérées en 2022. La solution tient en deux mots pour François Fillon, la prévention.
Le pari qu'on fait, c'est que la prévention permet de faire des économies considérables sur le reste de l'activité de santé.
Le programme santé de François Fillon reste suffisamment flou pour ne pas créer de nouvelles polémiques. L'enjeu est ailleurs. En revenant sur le terrain des idées, le candidat cherche avant tout à redevenir audible après un mois de Penelope Gate.
Suite d'une semaine d'actualité et un chapitre politique bien copieux, élection, campagne pour l'élection présidentielle oblige, je ne vais pas vous poser des questions de politique, Jean-Pierre Joker. Boris, Joker, évidemment. J'ajoute que Marine Le Pen a refusé d'être entendue par la police dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National au Parlement européen, c'est à suivre aussi dans nos journaux. Elle se rendra à toute convocation après les élections, dit-elle. Nous allons continuer à parler des traders, c'est vrai maître du monde. Et de cette enquête sur le marché des matières premières que vous venez de publier, Jean-Pierre, est-ce qu'il y a beaucoup de Français? Est-ce que la France est présente dans cet univers qui me semble plutôt anglo-saxon, non? Je me trompe?
Oui et non. Enfin, oui, les Français sont très présents et moins qu'ils ne l'ont été. Ils ont beaucoup à voir avec le négoce des matières premières à cause de la colonisation française, du domaine de cette colonisation, l'Asie, l'Afrique, des territoires d'outre-mer. Donc il y a eu beaucoup de produits que les Français commerçaient, et puis cette tradition s'est poursuivie après les indépendances. Et quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine des matières premières, il y a 20 ans à peu près, il y avait encore pas mal de boîtes de négoce françaises qui étaient installées à Paris, puis elles sont, à quelques exceptions près, toutes plus ou moins parties, pour des raisons, selon leurs dirigeants, pour des raisons fiscales, et donc elles sont beaucoup installées à Genève. Il en reste quelques-unes à Paris, par exemple Sugden, qui est un des grands noms du négoce des matières premières internationales. Sugden, ça veut dire sucres et denrées, ça a été fondé dans les années 50 par quelqu'un qui s'appelait Maurice Varsano, qui était un personnage très haut en couleur, très proche de Fidel Castro. Et l'entreprise a été reprise maintenant par son fils Serge Varsano, et ils font toujours dans le sucre, dans le cacao. C'est une entreprise qui s'est illustrée beaucoup dans ce que certains de mes prédécesseurs, Jean-Louis Gombeau, Stephen Smith, Corinne Mouton, ont appelé la guerre du cacao, qui s'est déroulée à l'époque du président Houphouët-Boigny, qui refusait la baisse des cours du cacao et avait donc fait stocker dans les entrepôts ivoiriens des dizaines, des centaines de milliers de tonnes de cacao, et qui avait été chargé de ce stockage, c'était Sugden, sucres et denrées. Ça avait mal tourné finalement pour la Côte d'Ivoire, puisque le marché, comme on dit, s'était retourné contre les Ivoiriens et qu'ils y avaient laissé un peu leur chemise. Mais pour revenir à la question sur les Français dans les matières premières, on en retrouve beaucoup, que ce soit à la manœuvre directement sur les produits, ou alors dans la finance, dans le financement des matières premières, chez les courtiers, il y en a beaucoup. Par exemple, vous allez à Londres chez des grands courtiers avec d'immenses salles, des centaines d'ordinateurs avec des gens devant ces ordinateurs. Souvent, il y a beaucoup de Français qui travaillent spécifiquement sur les matières premières.
Alors, vous faites le portrait de certains de ces traders, de ces négociants de matières premières, Jean-Pierre Boris, dans votre livre. Je voudrais qu'on s'attarde un instant sur l'un d'entre eux, l'un de ceux que vous décrivez et que l'on a surnommé, ou que l'on surnomme toujours d'ailleurs, Chocolate Finger.
Oui,
ça me rappelle un James Bond.
Oui. C'est tiré d'un James Bond, c'est la presse anglaise ou le milieu des négociants anglais qui l'avait surnommé Chocolate Finger par allusion à Goldfinger. l'homme au doigt de chocolat. L'homme au doigt de chocolat, de par son habileté à pressentir le marché, à connaître le produit et à en tirer beaucoup d'argent. Alors Chocolate Fingers, son vrai nom c'est Anthony Ward, c'est un homme qui doit avoir aujourd'hui une cinquantaine d'années, qui est moins présent dans le négoce du chocolat et du cacao parce que il a connu ces dernières années quelques déboires qui l'ont amené à être plus prudent. Mais c'est un homme qui, par sa connaissance du produit, des zones où il est cultivé, des milieux du pouvoir où dans les pays où ce cacao est cultivé, et puis par son intelligence
en Côte d'Ivoire
beaucoup, oui. Puisque c'est le producteur mondial, premier producteur mondial, mais aussi au Ghana, en Indonésie, en Amérique latine, eh bien cet homme-là a réussi des coups. Et c'est-à-dire à acheter beaucoup de cacao quand il était bas et puis à le revendre quand il était très cher et que tout le monde en avait besoin. Et puis sa société Armajaro a vu très grand. Ils ont installé des bureaux à peu près dans tous les pays du monde où on produit du cacao et dans les années à la fin des années 2010 ça a mal tourné. 2000-2010, ça a mal tourné et il a été obligé de beaucoup réduire la voilure, de licencier du monde et de se rabattre sur une activité beaucoup plus tranquille, je dirais, de spéculation financière.
Et de se séparer de quelques voitures de luxe.
C'est pas sûr. Mais lui est plus amateur de ski sur les pentes des Alpes et de rallye à travers l'Afrique.
Une semaine d'actualité.
Et direction l'Afrique, justement, Jean-Pierre Boris. 15 soldats nigériens ont été tués et 19 blessés dans une attaque terroriste menée mercredi contre une patrouille de l'armée dans l'ouest du Niger, à la frontière du Mali. Correspondance de Moussa Kaka.
D'importantes pertes en vies humaines et matérielles ont été enregistrées dans les rangs de l'armée nigérienne. Un communiqué du ministère de la Défense fait état de 15 morts et de 19 blessés. Le bilan officiel, qui ne souligne aucun véhicule enlevé ou détruit, précise que c'est une patrouille des forces armées nigériennes qui a été attaquée par des éléments terroristes aux abords de la localité de Interzawan, à une dizaine de kilomètres de la frontière malienne. Les assaillants lourdement armés et dont le nombre n'a pas été précisé sont venus de leur base de Inrabé dans le nord Mali et ont dû contourner tout le dispositif militaire de la zone de Menaka avant de s'accrocher à la patrouille nigérienne. Des renforts partis de toutes les bases militaires frontalières ont convergé vers Interzawan et les combats, dit-on, ont duré une bonne partie de la nuit. Au lever du jour, les poursuites et les ratissages terrestres et aériens se sont intensifiés pour tenter de neutraliser les terroristes en fuite avant qu'ils n'atteignent, dit-on, les montagnes des Adrar de Jiforas. Cette incursion n'est pas la première du genre dans la région de Tillabéri. Elle démontre tout simplement que les terroristes et les narcotrafiquants ont pris pied le long de la frontière entre le Niger et le Mali, avec comme base arrière les villages frontaliers maliens de Tambacor et Akabar.
Partons maintenant pour la Guinée, où les élèves ont repris le chemin des écoles après 3 semaines de fermeture due à une grève des enseignants. On vous en a parlé ces 2 derniers samedis, d'ailleurs, dans cette émission. Reportage à Conakry de Coralie Pierret.
Ce mercredi, les élèves de l'école Sainte-Marie ont pu regagner leur banc. Parmi eux, Anne-Marie, qui a rejoint sa classe de CM2.
J'avais un peu peur parce qu'il y avait la grève. Et à côté de chez nous aussi, il y avait beaucoup de militaires là-bas, oui. C'est pas une ambiance très sereine.
Mais tous les élèves n'ont pas répondu à l'appel, explique le directeur de l'établissement.
L'effectif n'est pas ce qu'on attendait. À peine on a 50%. Les cours sont perturbés, on ne peut pas faire de cours normalement.
Dans la classe de Sylvain Kourou, l'instituteur souhaite rattraper le retard accumulé après 3 semaines de fermeture.
C'est pas la première fois. Quand on prend le cas de la période de Boula, où nous sommes rentrés dans le mois de janvier, pour finir le programme en 6 mois. Bon, dans toutes circonstances, il y a toujours un plan B. Hein.
Encore faut-il que tous les élèves soient au rendez-vous dans les prochains jours. Assiatou Diallo n'a pas déposé ses enfants à l'école.
À cause de l'insécurité, je n'ai pas voulu que mes enfants partent à l'école. Parce que tout le monde a peur. Par exemple, hier à Bambeto, il y a eu des pertes en vie humaine. Donc, d'un moment à un autre, ça peut exploser.
Après les violences du début de semaine qui ont fait au moins 7 morts, des tensions persistaient ce mercredi dans quelques quartiers de la banlieue de la capitale.
Thank you.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Vous pouvez aussi nous écrire à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Quelques saluts, comme chaque semaine. Un salut aujourd'hui à Abdoulé, un jeune journaliste qui nous écoute à Conakry, à Siaka également dans la capitale guinéenne. Bonjour à Diémé à Dakar, à Sita à Sikasso, à Hervé au Burkina Faso, à Issouf à Yamoussoukro. Enfin, une bonne journée à Bénédicte et André Julien à Paris. Vous écoutez RFI et vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité, alors nous sommes entrés de plein pied dans le continent africain, Jean-Pierre Boris, continent africain, matière première, l'association se fait spontanément, mais j'ai tort.
Ben oui, un peu, parce que si les matières premières sont importantes sur l'Afrique, l'Afrique n'est pas si importante que ça pour les matières premières. Je m'explique, les matières premières sont centrales dans l'économie de ces pays africains, dans la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux en tout cas, mais sur le marché mondial, à quelques exceptions près, les ressources que ces pays fournissent ne sont pas vitales. Je pense que l'une des seules exceptions, c'est peut-être le cuivre zambien. Jadis, l'Afrique du Sud était le premier producteur d'or, ça n'est plus le cas, il a été rétrogradé, il est passé à la 7e place, très loin. Donc l'Afrique n'est pas un très très gros fournisseur de matières premières, même si des pays comme la RDC, bien par sûr, exemple la République démocratique du Congo, surgissent toujours quand on parle de matières premières et d'Afrique.
On parle même de pillage parfois.
On parle de pillage, on parle de scandales géologiques, il y a encore des affaires qui ébranlent ce monde-là, mais l'Afrique n'est pas un grand producteur de matières premières, malgré tout le ramdam qu'on fait autour de ces affaires. Ramdam souvent justifié, hein, parce qu'il y a des scandales, il y a des malversations, oui, il y a des détournements de fonds, il y a de l'argent qui est mal administré, qui s'évapore, même si des progrès, il faut le dire, ont été faits.
Alors Jean-Pierre Boris, vous nous avez fait le portrait d'un...
J'allais oublier, oui, la bauxite de Guinée.
Vous nous avez fait le portrait d'un de ces traders, rapidement, tout à l'heure, négociant. Je voudrais qu'on parle maintenant d'une société, la plus importante peut-être, qui s'appelle Glencore.
Voilà, Glencore, c'est aussi au démarrage une histoire d'homme. Parce que le fondateur de ce qui est devenu après Glencore, c'est un trader américain, Mark Rich, né dans une famille juive rescapée de l'Holocauste nazi, installé aux États-Unis, et Mark Rich, très jeune, démarre dans ce monde du négoce, et puis il s'installe à Madrid, et il est là-bas dans les années 70, et très vite, quand les pays de l'OPEP nationalisent les ressources pétrolières, il comprend que, par les contacts qu'il a eus, par le savoir-faire qu'il a acquis dans le négoce du pétrole, il peut réussir de très beaucoup, et c'est lui qui réussit, si vous voulez, à ce moment-là, à fournir du pétrole sur le marché mondial, alors qu'on en manque partout.
Mais là aussi, on est dans James Bond, parce que ce monsieur, enfin la société Glencore, a sa propre marine de guerre.
Alors, ça, c'est beaucoup plus tard. Le Mark Rich dont je vous parle, c'est à l'instant, c'était il y a 40 ans. Entre-temps, il a connu bien, lui aussi, bien des déboires, surtout avec les États-Unis qui l'ont accusé d'avoir violé l'embargo sur l'Iran, de frauder le fisc. Il a été interdit de séjour aux États-Unis, gracié dans les derniers jours, le dernier jour de son mandat, par Bill Clinton, ce qui n'a pas quand même pu lui permettre de retourner aux États-Unis. Si vous voulez, il a eu des héritiers qui ont fondé cette société qui s'appelle Glencore, qui est effectivement l'une des plus importantes, qui négocie des métaux, du pétrole, des céréales, qui est implantée dans le monde entier, à partir de ses quartiers généraux de Zoug en Suisse, un canton de Zoug où on paye très très peu d'impôts, c'est pourquoi Glencore est installé là-bas. Et effectivement, ils ont une petite flotte de guerre qui les pour protéger leurs navires au large de la Corne de l'Afrique et empêcher les pirates de s'emparer de leur cargaison.
Alors nous allons continuer notre voyage africain et passer par New York, Jean-Pierre Boris, car l'ONU, par la bouche de son secrétaire général, vient de lancer un appel à la famine dans 4 pays africains, à New York donc mercredi, Marie Bourreau.
En tout, ce sont 20 millions de personnes qui sont menacées de mort dans les 6 prochains mois. C'est la première fois en plusieurs décennies que 4 alertes à la famine sont lancées en même temps. Elles touchent le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud et le Yémen. Antonio Guterres, le nouveau chef de l'ONU, demande l'aide des États membres pour financer un plan d'urgence de 4 milliards de dollars d'ici la fin mars.
La vie de millions de personnes dépend de notre capacité à agir. Dans notre monde d'abondance, il n'y a pas d'excuse pour l'inaction ou l'indifférence. Nous avons entendu les alertes. Maintenant, il n'y a pas de temps à perdre.
Mais pour l'instant, l'ONU ne dispose que de 90 millions de dollars. C'est au Yémen que la situation est la plus critique, avec plus de 7 millions de personnes qui meurent de faim. Sans la nommer, Antonio Guterres lance un appel à l'Arabie Saoudite qui bombarde les rebelles houthis dans le pays et accusé de bloquer l'aide humanitaire.
La situation est critique. C'est le moment où le droit international humanitaire doit être respecté par tous et l'accès doit être accordé dans toutes les zones.
Car des 4 pays menacés par la famine, seule la Somalie connaît actuellement une sécheresse.
Et à propos de la Somalie, justement, il faut noter l'investiture du président Farmajo à l'aéroport de Mogadiscio, l'endroit le plus sécurisé de la capitale, on le sait, où s'était déroulée d'ailleurs son élection le 8 février dernier. On en avait parlé dans cette émission. La Somalie me fait penser à évidemment à la famine et cet appel singulièrement. Et vous voulez dire quelque chose qui est extrêmement intéressant sur le lien entre l'aide des Nations Unies et le rôle des traders?
Oui, parce que les Nations Unies, le Programme Alimentaire Mondial, par exemple, quand ils fournissent des céréales, du riz, du sorgho, que sais-je, du blé, aux pays menacés de famine, souvent ils font appel à ces traders de matières premières, parce que ces traders, leur boulot, leur spécificité technique, leur compétence, ça n'est pas simplement de jouer avec de l'argent. Il y a aussi un véritable savoir-faire qui les rend quasiment indispensables. Le savoir affréter un navire, où le trouver, comment le payer, comment le charger, comment faire pour décharger, quelles sont les sociétés qui peuvent le faire. Donc ils ont un savoir-faire, une rapidité dans l'exécution de leur mission qui peut être très utile et qui est très utile et souvent indispensable à des agences des Nations Unies pour alimenter des zones en péril.
Alors il faut terminer cette émission en insistant sur la dérive qu'a connue cet univers des matières premières avec la spéculation et l'arrivée des fonds d'investissement dans cette activité.
Alors les fonds d'investissement, ils ont joué longtemps un rôle central, mais pas pervers, allais-je dire, dans ce monde des matières premières. C'est-à-dire qu'ils apportaient de la liquidité, ils permettaient sur les marchés à terme, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose de très compliqué, très important, d'équilibrer les achats et les ventes des négociants comme des producteurs ou des acheteurs finaux. Et est venue une période où, dans les années 2000, ayant à leur disposition des liquidités très importantes, ces spéculateurs, ces fonds d'investissement, ces fonds spéculatifs, se sont mis à jouer un rôle de plus en plus important dans les cours des matières premières, les déstabilisant, faisant monter les cours parfois sans réelle connexion avec la réalité du marché, c'est-à-dire normalement ce qui est rare et cher. Or là, les cours ont pu monter de manière extrêmement violente et irrationnelle, par pure spéculation de ces fonds d'investissement. Mais il y a d'autres gens qui se sont mis à spéculer aussi sur les matières premières, et ce sont les banques. Les banques, généralement, elles sont là en appui du négoce, elles fournissent de l'argent, elles prêtent de l'argent, elles se font rembourser quand la marchandise est arrivée à destination et est vendue. Or là, les banques se sont mises à acheter pour leur compte propre des matières premières, des stocks d'aluminium ou autres. Et ça a conduit à des dérapages importants, à des fraudes et à des manipulations de cours qui ont été dénoncées après, notamment aux États-Unis, par les commissions de régulation de la bourse américaine.
Et 2008 a un peu changé les choses. La crise
a un peu changé les choses parce qu'on s'est aperçu de ce qui se passait, parce que ces banques se sont retirées. Je lisais récemment que l'encours en matière première des banques avait diminué récemment de 63 milliards de dollars par rapport à cette période, ce qui est quand même conséquent.
Et Bill Clinton a joué un rôle important
dans cette... Bill Clinton avait joué un rôle pour déréguler tout ça et autoriser les banques et les spéculateurs à intervenir sans limite sur les matières premières.
Merci Jean-Pierre Boris. Votre livre s'intitule « Traders, vrai maître du monde, enquête sur le marché des matières premières ». Un joli petit livre publié chez Talendier. Il faut saluer les illustrateurs.
L'illustratrice qui s'appelle Marion Selnay.
Livre publié chez Talendier. Merci. On vous retrouve tout à l'heure dans votre émission qui sera consacrée aujourd'hui à...
aux questions migratoires et à l'impact économique des migrations dans les pays d'accueil.
Merci.
Émission passionnante.
Comme chaque semaine, d'ailleurs.
Comme la vôtre.
Merci.
Pierre-Edouard.
Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky. Évidemment, rendez-vous pour le magazine Idées demain dimanche. Nous parlerons du populisme, des régimes hégémoniques, pour reprendre le terme de notre invité Alain Rouquier, qui vient d'écrire Le siècle de Péronne aux éditions du Seuil. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.